Vous écoutez On lit pour vous.
Obtenez de l'information juridique gratuite ou à faible coût. Un texte de Stéphanie Perron, paru le 21 mars 2025 dans Protégez-vous. Consultation d'un avocat à faible coût, clinique juridique, conseil juridique gratuit. Voici une liste d'associations et d'organismes pouvant vous aider à faire respecter vos droits. Certains services sont réservés au grand public, alors que d'autres visent seulement les gens répondant à des critères précis. Par exemple, les personnes qui n'ont pas accès à l'aide juridique ou les gens à faible revenu. Selon votre situation, vous pouvez par exemple obtenir des conseils juridiques en ligne, rencontrer un avocat en droit de la famille, avoir des conseils juridiques par téléphone, etc. Quelques services donnent droit à des conseils personnalisés comme l'opinion d'un avocat, alors que d'autres visent seulement à donner de l'information juridique. Par exemple, vous expliquez les étapes à suivre pour faire valoir vos droits. Au moment de contacter l'organisme, demandez à quel genre d'informations vous aurez droit. Le barreau de Montréal, le barreau de Longueuil et le barreau de Québec, aussi pour la Beauce et Montmagny, offrent des services de référence à prix réduit. Cela vous permet d'obtenir les coordonnées d'un avocat dans le champ de pratique dont vous avez besoin et d'avoir une rencontre avec lui à un tarif intéressant, par exemple 60 $ pour la première heure. Le jeune barreau de Montréal offre plusieurs services gratuits. Exemple, service d'aide à la préparation d'une audition, conseil juridique aux entrepreneurs qui démarrent une entreprise, information aux jeunes âgés de 12 à 21 ans, clinique juridique téléphonique, etc. La clinique juridique du Barreau du Québec offre des conseils juridiques gratuits par l'entremise d'étudiants à l'école du Barreau supervisée par des avocats. En personne à Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ou de manière virtuelle partout au Québec. Justice Pro Bono offre des services juridiques gratuits aux gens qui ont peu de moyens financiers mais qui n'ont pas droit à l'aide juridique. Exemple. Accompagnement et préparation au tribunal des droits de la personne, conseil juridique aux patients de l'hôpital de Montréal pour enfants et à leurs familles, clinique Porte 33 en visioconférence pour répondre aux questions concernant la séparation familiale. Les migrants à statut précaire peuvent rencontrer des avocats bénévoles spécialisés en droit de l'immigration. L'aide juridique est un service public offert gratuitement ou moyennant une contribution aux personnes financièrement admissibles. Les avocats offrant le service ont le mandat de conseiller leurs clients et de les représenter en cour. Pour savoir qui a droit à l'aide juridique gratuite au Québec, consultez le site de la Commission des services juridiques. Les 13 centres de justice de proximité, dispersés partout au Québec, offrent de nombreux services. Par exemple, de l'information concernant la Cour des petites créances et des renseignements en matière de droit successoral. Ils offrent aussi des séances d'information, par exemple, sur le tribunal administratif du logement, les conjoints de fait, la médiation, etc. Par ailleurs, le ministère de la Justice assume les frais liés à un certain nombre de séances de médiation familiale pour les couples qui se séparent, et les centres de justice de proximité offrent gratuitement le service de prémédiation familiale, info-séparation, pour se préparer au processus de médiation. Juripop offre des services juridiques à faible coût aux gens qui ont peu de moyens financiers mais qui n'ont pas droit à l'aide juridique. Volet particulier pour le harcèlement au travail, les violences conjugales et sexuelles, les personnes vivant avec la sclérose en plaques et celles vivant avec le cancer. Ces universités offrent de l'information juridique, parfois pour le grand public, d'autres fois pour la communauté étudiante, par l'entremise d'étudiants en droit supervisés par des professeurs qui sont avocats. Université de Montréal, 514-343-7851. Université Laval, 418-656-7211. Université de Sherbrooke, 819-821-8000, poste 61307, Université McGill, 438-944-6545, Université Concordia, 514-848-7474, poste 7375, Université d'Ottawa, 613-562-5600. La nature des services varie. Par exemple, une clinique pourrait ne pas offrir de conseils, mais plutôt vous diriger vers les bonnes ressources. Le service d'avocat de garde, SAGE, du barreau de Montréal, offre sur référence de la Cour uniquement une aide ponctuelle aux personnes non représentées par un avocat dans le cadre d'un dossier en matière de droit familial, sur place au Palais de justice de Montréal. D'octobre à mars, la clinique d'information juridique du Y des femmes de Montréal, 514-866-9941, poste 293, accueille une équipe d'étudiants en droit bénévole. Ils n'offrent pas de conseils juridiques, mais ils peuvent par exemple vous aider à vous préparer avant de rencontrer un avocat ou un notaire, vous aider à chercher de l'information juridique, vous accompagner pour rédiger une mise en demeure, etc. Le collectif juridique offre gratuitement des services d'information, de conseils et d'accompagnement juridique aux gens qui ont peu de moyens financiers mais qui n'ont pas droit à l'aide juridique. À Montréal, dans Petite-Bourgogne, Rosemont-la-Petite-Patrie, Mile End et Parc Extension. La clinique juridique du Grand Montréal offre un service d'accompagnement, par exemple, si vous voulez faire une plainte en déontologie policière, si vous avez besoin d'aide pour rédiger une mise en demeure ou si vous souhaitez avoir un support moral durant votre processus judiciaire. Il offre aussi un service de consultation juridique gratuit qui s'effectue sur une période de 3 semaines. La clinique Droit de Cité, Québec, et la clinique juridique itinérante, Montréal, favorisent l'accès à la justice des personnes marginalisées. Option consommateur offre un service d'information juridique gratuit pour les gens ayant un problème lié à leurs droits en matière de consommation, ainsi que des conférences virtuelles gratuites sur les droits des aînés. La plateforme web Parle Consommation de l'Office de la protection du consommateur propose un environnement neutre et confidentiel pour tenter de régler un litige avec un commerçant. Pour utiliser le service en ligne, il faut contacter l'Office par téléphone au 1-888-OPC-ALLO. Vous écoutez « Obtenez de l'information juridique gratuite ou à faible coût », un texte de Stéphanie Perron, paru le 21 mars 2025 dans « Protégez-vous ». Le Tribunal administratif du logement offre un service téléphonique de renseignements généraux sur vos droits et obligations. Il offre aussi JusticeBot, un outil interactif permettant de consulter des décisions rendues par le tribunal à propos de situations similaires à la vôtre. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, peut vous aider à déposer une plainte auprès de la police et vous soutenir tout au long du processus judiciaire, notamment lors du témoignage à la cour. Le programme Témoins-enfants prépare les témoins âgés de 5 à 17 ans à un éventuel passage à la cour. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse agit contre la discrimination, le harcèlement, l'exploitation et l'exclusion. Elle peut faire enquête de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte. Elle offre un service de médiation pour les plaintes qui relèvent de la Charte des droits et libertés de la personne et peut aussi représenter des citoyens au tribunal. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, favorise les relations justes entre les employeurs et les salariés et offre au grand public des informations générales via son service téléphonique pour les travailleurs. Équijustice offre une expertise de matière de justice réparatrice. L'organisme accompagne par exemple les gens ayant commis des infractions et qui désirent entamer un processus de déjudiciarisation ou de non-judiciarisation. Equijustice offre aussi des services de médiation citoyenne et de médiation spécialisée en marge des procédures traditionnelles. Le service est accessible à tous. Informel offre un service téléphonique d'information juridique gratuit en droit familial. 450-443-8221 ou 1-877-443-8221. Des séances gratuites de médiation familiale, des séances d'information gratuites, ainsi que des ateliers à coût modique, par exemple, pour rédiger soi-même une demande de divorce. Certains palais de justice offrent des services de consultation juridique dans leur district judiciaire. Certains programmes d'assurance collective offrent un programme d'aide aux employés qui inclut l'accès à des conseils juridiques sans frais. Parfois, cet avantage n'est pas mis de l'avant dans la documentation expliquant les avantages sociaux, de sorte que l'employé ne sait pas qu'il y a droit. Certaines associations de consommateurs offrent une assistance juridique gratuite ou à faible coût, tout comme plusieurs compagnies d'assurance auto ou habitation. Plusieurs services privés comme On Règle, Juris Référence ou Assistance Créance offrent des forfaits à prix fixe aux gens qui se préparent pour aller à la cour des petites créances. On ne peut qualifier leur prix de modique, mais ils sont intéressants compte tenu du taux horaire de la plupart des avocats. Répertoire gratuit permettant de trouver de l'information juridique. La boussole juridique. Site web boussolejuridique.ca répertorie l'ensemble des ressources juridiques gratuites ou à faible coût au Québec. Vous pouvez faire des recherches par région ou par thème, notariat, droit des locataires, contravention, conflit de voisinage, succession, union libre, etc. Le 211 Québec, site web qc.211.ca, contient des répertoires sur les services communautaires, publics et parapublics selon la région où vous habitez. Il ne s'agit pas d'un site dédié précisément aux ressources juridiques, mais vous pouvez tout de même en trouver. Le Centre de référence du Grand Montréal, site web crgm.ca, donne gratuitement des renseignements sur les ressources communautaires selon les besoins de chaque individu. Il possède un volet particulier pour la dépendance au jeu, à la drogue et aux médicaments. Le site québec.ca possède une section dédiée aux programmes de soutien et aux aides financières. Perte d'autonomie, divorce, itinérance, aîné, démarche à faire lors d'un décès, tutelle des biens d'un mineur, etc. Et certaines informations peuvent vous aider à explorer l'aspect juridique d'une situation que vous vivez. Site web offrant de l'information juridique gratuite. La Société québécoise d'information juridique, SOQUIG, site web citoyen.soqig.qc.ca, offre un moteur de recherche gratuit permettant de consulter des lois et des décisions rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs. Le site JuridiQC, site web juridiqc.gouv.qc.ca, offre une foule d'informations juridiques pour les travailleurs accidentés ou atteints d'une maladie professionnelle, les locataires, les aînés en perte d'autonomie, ainsi que les couples qui se séparent ou divorcent, notamment ceux qui se représentent eux-mêmes à la cour. L'outil d'aide au divorce conjoint de JuridiQC aide les couples, sans enfants nés de leur union, qui souhaitent divorcer à l'amiable. Gratuit et simple à utiliser. Le site d'Éducalois, site web éducalois.qc.ca, offre des renseignements juridiques destinés au grand public, notamment à propos des conjoints de fait, des responsabilités des liquidateurs de succession, des droits des consommateurs, etc. L'organisme offre des formations en ligne disponibles en tout temps et des ateliers dans les écoles. Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, RCLALQ, site web rclalq.qc.ca, fait la promotion du droit au logement en informant la population, en offrant des formations et en diffusant du contenu juridique, politique et social. C'était « Obtenez de l'information juridique gratuite ou à faible coût », un texte de Stéphanie Perron, paru le 21 mars 2025 dans « Protégez-vous ».
Le Québec touché par les coupes dans la recherche scientifique américaine, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir. Au sud de la frontière, le gouvernement Trump a annoncé des coupes massives dans le domaine de la recherche scientifique, notamment dans le financement de la recherche médicale. Pour l'instant, contesté par la Cour fédérale, ces compressions ont tout de même déjà des effets sur la recherche scientifique au Québec, selon des chercheurs d'ici. L'annonce des réductions budgétaires a fait son bout de chemin dans les laboratoires de la province. Même si la Cour fédérale américaine a pour l'instant empêché la mesure d'être mise en place, Donald Trump a trouvé un moyen de contourner cette décision en imposant un moratoire temporaire sur toutes les demandes de subventions dans les National Institutes of Health, NIH. Les NIH financent d'innombrables projets, autant à l'intérieur des États-Unis qu'à l'étranger. Juste au Québec, en 2024, ce sont plus de 5 millions de dollars qui ont été donnés à des universités et à des centres de recherche hospitaliers, selon les données ouvertes des NIH. Le moratoire, même temporaire, menace la fin du financement dans des projets de recherche concrets comme la recherche de traitements pour le cancer ou pour le diabète. C'est le chaos total au NIH, affirme Vincent Poitou, vice-recteur désigné à la recherche à l'Université de Montréal. Puisque plusieurs d'entre elles dépendent d'un financement des NIH, certaines universités américaines ont même été obligées de retirer l'acceptation dans des études postdoctorales de certains étudiants qui avaient été admis plus tôt cette année. On a beaucoup d'étudiants qui sont formés au Québec et qui font leur postdoctorat aux États-Unis, détaille-t-il. En supprimant des places dans les études postdoctorales, les critères de sélection des étudiants pourraient devenir beaucoup plus restrictifs. C'est sûr qu'il va y avoir des gens compétents qui vont être découragés par les coupures, estime-t-il. Si l'on arrête de former des chercheurs, qui seront les professeurs dans 10 ans? Demande-t-il. C'est la culture même dans les universités et dans les infrastructures de recherche qui est menacée, continue le vice-recteur désigné à la recherche. Des études menacées. En matière de chiffres, on parle de compression budgétaire d'environ 4 milliards de dollars juste à l'échelle des NIH. Ce sont les frais indirects des subventions en recherche qui sont visés par le gouvernement Trump. Il s'agit de l'argent nécessaire, par exemple, pour la mise à niveau d'équipements ou pour le personnel administratif des laboratoires. Ces frais sont inéluctables au bon fonctionnement des équipes de recherche et leur restriction pourrait menacer l'arrêt de certaines études. On parle de vrais patients qui devront attendre plus longtemps pour des soins, affirme M. Poitou. Selon lui, ce sont actuellement plus de 45% des frais qui sont considérés comme indirects. Cette mesure aurait pour effet de retirer 4 milliards de dollars américains, plus de 5,5 milliards de dollars canadiens, en financement octroyé par les NIH. On assiste à un exercice de démolition en règle, soutient Vincent Larivière, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte. 38% de la recherche en médecine au Québec est faite en collaboration avec les États-Unis, rappelle-t-il d'emblée. La science est une activité internationalisée, continue-t-il. il ne serait pas concevable de faire de la recherche en vase clos, juge-t-il. Rien d'autre que des raisons idéologiques peuvent expliquer la décision du nouveau président américain, selon le chercheur. Il n'y a pas de bonne raison de couper dans la recherche, même qu'il faudrait investir davantage. C'est pour le bien de tous. Pas seulement des problèmes. Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec, ne voit pas dans les coupes que du négatif. On a une opportunité de se remettre en question, souligne-t-il. Depuis 2024, le Québec s'est doté du Fonds de recherche du Québec, FRQ, qui vise à financer la recherche à l'intérieur de la province. Il voit dans le défi que représentent les compressions une manière de mettre en avant le FRQ. Afin d'aider le milieu scientifique, il est important, selon lui, de miser sur le talent québécois. On veut aussi aller recruter des Québécois partis aux États-Unis travailler. Il pense d'ailleurs que c'est un bon moment pour diversifier les partenariats et collaborer davantage avec le reste du Canada. Il admet tout de même que les compressions créent des difficultés inattendues. On espère que la crise ne durera pas trop longtemps et surtout qu'on saura apprendre de tout ça. C'était Le Québec touché par les coupes dans la recherche scientifique américaine, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir.
L'héritage de nos mots. Une chronique de Nicolas Vandal parue le 9 mars 2025 dans le magazine Fugue. Ma gorge était nouée, mes lèvres tremblantes. Il fallait que ces mots sortent. Alors, d'une voix presque étranglée, j'ai fini par les lâcher. Je suis gay. C'était une délivrance, mais aussi une peur sourde, celle de ce qui viendrait après. Parce qu'une fois dit, plus jamais on ne revient en arrière. Ce dévoilement ouvre des portes et en ferme d'autres, redéfinissant tout en un instant. J'étais prêt à prendre ce risque, à être moi. C'était il y a 12 ans. À l'époque, je pensais que ce coming out n'appartenait qu'à moi. Une étape intime, un rite de passage inévitable. Mais très vite, j'ai compris que ces mots portaient un héritage bien plus vaste que ma propre histoire. Ils renfermaient la force des générations qui m'avaient précédé, celles qui avaient marché dans la rue malgré les injures, aimé dans l'ombre malgré la peur et revendiqué leur existence malgré la violence. En les prononçant, je ne faisais pas que m'affirmer, je devenais le maillon d'une chaîne vivante de résistance et de résilience. Un coming out ne se résume pas à dire « je suis bi, je suis trans ou je suis queer ». Non, c'est bien plus qu'une étiquette. C'est un acte quotidien, une manière d'aimer, d'exister, de prendre notre place. Être out, c'est embrasser son identité, refuser d'être effacé. Toutefois, cette invisibilité nous est souvent imposée, insidieusement. Elle s'infiltre dans les silences gênés, les regards fuyants et ses remarques assassines. Pourquoi en parler tout le temps? Ou « ça ne nous regarde pas » Comme si le simple fait d'être présent était une provocation, et que, quoi qu'on fasse, ce serait toujours trop. Sauf que ce monde est aussi le nôtre. Je me souviens d'une soirée dans un bar de ma ville natale. J'ai embrassé une date. Rien de théâtral, juste un geste tendre, naturel. Le lendemain, une photo de ce moment, prise à notre insu, s'est retrouvée sur Facebook, accompagnée d'une vague de commentaires désapprobateurs. « Vous pourriez faire ça ailleurs, non ?»« Ailleurs, comme si notre relation devait rester cachée derrière des portes closes. » Pourtant, autour de nous, des couples hétéros s'embrassaient sans que quiconque n'y trouve à redire. Ce jour-là, j'ai compris que notre simple présence en public suffirait toujours à déranger certains. J'ai ressenti la même chose lorsque des proches ont tenté de me dissuader de mentionner mon orientation dans mon livre. Le cauchemar de l'intimidation, j'ai failli en mourir. Ça va nuire à tes possibilités d'emploi, m'a-t-on dit, comme si afficher cette diversité constituait une menace pour la société. Pourquoi devrais-je taire une part de moi pour rassurer un monde qui préfère nous ignorer? Si affirmer qui nous sommes perturbe, c'est précisément la preuve que ces mots sont plus que nécessaires. Alors, je les ai écrits, sans détour, sans compromis, sans permission. Parce qu'être soi, ce n'est jamais négociable. Il y a 40 ans, lors des premières marches contre le VIH-Sida, un cri résonnait. « Silence égale mort ». Ce n'était pas un slogan en demi-teinte, c'était un constat. Rester silencieux, c'est se condamner. Ce message a traversé les décennies sans perdre de sa force. Aujourd'hui, on ne nous interdit plus de parler, on nous demande de chuchoter. On nous tolère tant qu'on ne dérange pas. Mais exister, c'est forcément prendre sa place. Autrefois, on nous effaçait par la violence. Des lois nous condamnaient, des descentes de police nous traquaient, des traitements psychiatriques nous brisaient. Les méthodes ont changé, mais l'intention demeure la même. Elle se manifeste désormais par petites touches. Un livre qui disparaît discrètement des rayons, un programme scolaire qui élude les réalités LGBTQ+, un drapeau retiré d'une école pour ne pas créer de controverses. Tout cela, soi-disant, pour protéger l'enfance, préserver les valeurs familiales ou éviter d'imposer des idéologies. Mais on ne protège pas un enfant en lui cachant la réalité. On ne l'aide pas en lui refusant des modèles qui pourraient lui montrer qu'il a le droit d'être lui-même. Malgré tout, nous sommes là, plus visibles que jamais. Nos coming out, nos amours assumés, nos histoires partagées sont autant de victoires en soi. Nous ne sommes plus seuls. Des communautés se forment, des alliés se lèvent et des espaces sûrs se bâtissent pour nous permettre de vivre pleinement. Il y a 12 ans, j'ai prononcé ces mots pour la première fois. Aujourd'hui, je les dis encore, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui hésitent, pour ceux qui, jour après jour, ouvrent des portes et tracent des chemins. Chaque fois que nous disons « je suis », nous résistons et affirmons notre droit à être vu, entendu et aimé. Tant qu'il y aura des voix pour s'élever, des récits pour inspirer et des communautés pour se soutenir, notre existence ne sera jamais réduite au silence. C'était « L'héritage de nos mots », une chronique de Nicolas Vandal parue le 9 mars 2025 dans le magazine Fugue.